Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mardi 24 juillet 2018, dans le JDA, la tournée africaine du président Xi Jinping. Après le Sénégal, le Rwanda, le chef d'État chinois est attendu aujourd'hui en Afrique du Sud. Le président chinois bouclera sa tournée d'une durée de 9 jours par une visite amicale à l'île Maurice prévue ce vendredi. Hier, 15 accords bilatéraux ont été conclus entre la Chine et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Alors la Chine est-elle devenue le partenaire privilégié de l'Afrique? Nous en parlerons avec Jean-Joseph Boileau, économiste, conseiller du club du Centre d'études prospectives et d'information internationale pour les pays émergents. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant de s'intéresser à notre sujet du jour, vos messages laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, chers auditeurs de la radio Africa numéro 1. Bonjour, chères auditrices. J'appelle ce matin concernant le Mali. Voilà des années que Kadhafi est mort. Voilà des années que les terroristes sont au nord du Mali. Je me demande à quoi sert la force la MINUSMA au Mali. Est-ce toujours les armes de Kadhafi qu'ils utilisent? Si oui, ok. Sinon, qui leur fournit en armes? La force de la MINUSMA est au Mali depuis des années pour encadrer les Maliens, pour former les soldats maliens, pour amener la sécurité au nord du Mali, dans tout le Mali. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, la sécurité n'y est pas. Il y a toujours des morts, il y a toujours des embuscades, il y a toujours des hommes et des femmes, des personnes âgées, des enfants qui sont tués chaque jour. Où sont passés ces milliers d'hommes qui sont au Mali, ces milliers de soldats de la MINUSMA qui sont au Mali, peut-être aux frais du contribuable malien? Que fait la MINUSMA au Mali? Si vraiment ils sont là pour apporter la sécurité et la paix au Mali, pourquoi depuis des années, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité au Mali? Pourquoi? Et qui fournit la MINUSMA, qui fournit les terroristes en armes? Est-ce la MINUSMA? Est-ce la France qui joue aux pyromanes et aux pompiers? Je vous remercie.
Bonjour à Africa numéro 1. Je m'adresse au peuple malien de sortir le 29. D'aller voter. Faut vraiment ce régime qui est en place aujourd'hui, faut le sanctionner. Le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et son fils, Karim Keïta, faut le sanctionner. Ce régime, il va amener la violence dans le pays. Ibeka, il reste quelques jours, il va laisser le pouvoir. Les peuples maliens sont prêts d'aller voter dimanche pour sanctionner le régime d'Ibeka. C'est un régime qui a enfin. Qui n'ont pas des idées, qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien, qui ont pillé le pays pendant 5 ans. Le peuple malien sortait dimanche, allait sanctionner ce régime. J'ai dit, être patient. Bientôt, Ibeka, son pouvoir est fini. Merci, Africa numéro 1, que Dieu bénisse Mali et Dieu bénisse l'Afrique. Merci, au revoir.
Bonjour. J'ai toujours dit que le Front populaire ivoirien est un parti de revanchards. Mais la preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois certains responsables du FPI et du COGEP, c'est-à-dire le parti de Blé Goudé, qui veulent s'allier au PDCI. Ah, mais je suis tellement surpris. C'est comme une personne qui est violée, et, comment dirais-je, qui fait la cour à son violeur. Voilà, c'est dans ce système-là, dans ce schéma-là que nous sommes aujourd'hui. Mais chers amis, mais n'oubliez pas que le PDCI était comptable du transfert de Laurent Gbagbo à La Haye quand ils étaient en alliance RHDP avec le RDR. Cela, ne l'oubliez pas. Mais vraiment, je suis vraiment surpris. En même temps, je salue le discours responsable du président Ouattara. Mais moi, je lui demande de toujours rester dans le sillage du pouvoir pour apporter son expertise et son expérience à cette nouvelle génération. Idriss, bonne journée.
Bonjour. Alors, je voulais intervenir par rapport au propos du président de la République du Côte d'Ivoire. J'ai dit ceci. Le discours du président Ouattara est très ambigu. Nous demandons au président Ouattara de faire un effort. Si réellement il ne veut pas se représenter en 2020, qu'il le dise à la communauté nationale et internationale. Expliquez bien que je ne me représenterai plus. Et quand il dit que je permettrai, moi et le président Bédi, nous allons permettre l'alternance en 2020, mais c'est vague, ça ne veut rien dire. Franchement, que le président ne tombe pas dans les mêmes erreurs que le président Oufouet Boigny. Parce que c'est les mêmes, ce sont ces causes-là qui ont envoyé la Côte d'Ivoire, amené la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et ce que nous savons. Je vous remercie.
Bonjour les amis de JDA, bonjour le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, Kabila, nous savons que c'est un grand boulanger. Il a roulé déjà le peuple congolais dans la farine, ça fait des ans, 2016-2017, mais cette année, c'est une année décisive pour le peuple congolais. S'il veut sortir dans la grande porte, c'est à lui de choisir. De sortir dans la grande porte ou la petite porte. Parce que nous, le peuple congolais, nous sommes déterminés. Tout ce qu'il est en train de faire, de dire, de parler, ça concerne que sa famille politique et sa famille biologique, ça ne concerne pas le peuple congolais. Nous, le peuple congolais, nous disons, nous demandons seulement son départ, qu'il quitte le Congo, qu'il laisse le pouvoir à nous et nous allons développer le Congo et nous allons mettre le Congo en rail et nous allons mettre le Congo en marche, ce que nous demandons à M. Kabila. S'il n'est pas sorti de la grande porte, le peuple congolais va s'en charger et il sera poursuivi en justice de tous ces massacres, toutes ces atrocités sommaires qu'il a commis à la République démocratique du Congo.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui donc, dans le JDA, la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Après le Sénégal, le Rwanda, le chef de l'État chinois est attendu aujourd'hui en Afrique du Sud. Il bouclera sa tournée d'une durée de 9 jours par une visite amicale à l'île Maurice, prévue ce vendredi. Hier, 15 accords bilatéraux ont été conclus entre la Chine et le Rwanda dans des secteurs clés comme le domaine hospitalier, celui du transport routier et aérien, du commerce électronique. Ces accords, dont les montants n'ont pas été dévoilés, représentent plusieurs millions de dollars. Ils témoignent des efforts de la Chine pour étendre son influence sur le continent africain. Par ailleurs, 10 accords ont été signés entre la Chine et le Sénégal dans les domaines de la justice, de la coopération économique et technique, les infrastructures. Alors la Chine est-elle devenue le partenaire privilégié de l'Afrique aujourd'hui? Pour en parler, nous avons en ligne Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup.
Bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Alors, vous êtes économiste, vous êtes conseiller du club du Centre d'études de prospective et d'information internationale pour les pays émergents. Vous connaissez bien l'actualité économique et les relations économiques entre la Chine et le continent africain. Alors, tout d'abord, concernant cette tournée, pourquoi ces trois pays, Sénégal, Rwanda, Afrique du Sud, ont été choisis pour cette tournée africaine du président chinois, selon vous ?
J'ai écrit l'Afrique pour les nuls avec Raman Idrissa il y a 2 ans et je dois dire que je suis fort content d'avoir collaboré avec Raman qui est un politologue et qui est un historien. Sur la visite de Xi Jinping, il faut bien comprendre que les présidents chinois et leurs premiers ministres et leurs ministres du commerce, etc. sont sans arrêt fourré en Afrique, c'est un fait.
Oui.
Et donc, il faut prendre chaque étape comme étant à l'intérieur d'un ensemble de voyages, des étapes complémentaires des autres. Donc
oui.
Là, cette fois-ci, il y a d'une part le Sénégal, pardon, et
oui.
puis d'autre part, Kigali, le Rwanda. Si vous regardez une carte de l'Afrique, vous avez tout de suite compris de quoi il s'agit.
Oui.
D'une part, ce sont deux petites puissance économique, et donc la thèse sur laquelle la Chine ne s'intéresse qu'aux matières premières de l'Afrique tient pas vraiment. Ce sont pas des grandes puissances économiques, ils sont assez peu peuplés. Par,
ouais.
par contre, ils jouent un rôle essentiel sur le plan de des idées, de la géopolitique.
D'accord.
Ça, c'est le premier élément.
Oui.
D'accord. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Sénégal, Dakar, c'est le lieu de débat sur l'avenir de l'Afrique, etc. Et
ouais.
d'autre part, que depuis l'arrivée donc du président Kabila à la tête du Rwanda, on a affaire à un homme à poigne qui a complètement...
Président Kagame, vous voulez dire, président Kagame.
Kagame, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est parce qu'un de vos auditeurs posait une question sur la RDC.
La RDC, ouais.
Kagame, c'est un homme à poigne, il est à la tête de l'Union africaine, et il a fait en quelques années, je suis allé en janvier dernier, une sorte de petit Hong Kong, si vous voulez, à Kigali. Donc il y a là deux endroits où l'avenir de l'Afrique se discute, s'écrit.
D'accord.
Enfin, dernière chose, si vous prenez là encore la carte de l'Afrique, vous voyez qu'il y a deux capitales régionales, d'une part en Afrique de l'Est,
oui.
avec en particulier le rôle essentiel de Rwanda, à la fois pour sortir les matières premières de la RDC, celles qui sont situées du côté Est. Et quand vous prenez les routes de Kigali et que vous allez vers la Tanzanie ou vers le Kenya, c'est bourré de camions. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe là,
ouais,
et il y a
d'accord.
donc des besoins. Or, il y a dans la région une boucle ferroviaire. C'est le grand, grand, grand sujet aujourd'hui des Chinois en Afrique. C'est complètement couvrir le continent de voies de chemin de fer. Et de l'autre côté, même chose avec le Sénégal, il y a une boucle ferroviaire qui est en train de se constituer entre le Sénégal, le Mali, le Niger et ensuite le retour vers le Bénin, le Ghana. Et à chaque fois, ce sont des boucles ferroviaires qui visent à réunifier ou à unifier des marchés régionaux, donc l'Afrique de l'Ouest d'un côté, l'Afrique de l'Est de l'autre, et à les relier à des ports.
Oui.
Donc on relie d'une part des sources de matières premières à des ports, et d'autre part, ça permet de rentrer sur les marchés africains, car la Chine s'intéresse de moins en moins aux matières premières africaines, de
oui.
plus en plus à son capital humain et à son marché. C'est par milliards aujourd'hui que les Made in China se trouvent en Afrique, j'estime à peu près 60% la part de marché des produits qui viennent de Chine, et donc il faut approvisionner les consommateurs en téléphone mobile, en moto, en bus, etc. Et donc ces boucles ferroviaires et routières sont absolument essentielles.
Ce que vous dites, c'est que la Chine est en train de tisser une sorte de toile hein, sur le continent africain dans un but économique mais aussi politique et stratégique.
Non, j'aime pas l'expression tisser sa toile, car ça donne l'impression d'une araignée qui tout d'un coup a décidé de tisser sa toile. En réalité, si vous prenez l'agenda 2064 qui a été défini par l'Union africaine, donc c'est la volonté collective des Africains,
oui.
Et bien dans ce projet-là, il y a la couverture intégrale du continent africain en infrastructure de transport. Et
d'accord.
simplement, ce que fait la Chine, c'est un peu comme pour les économistes, c'est assez connu, peut-être pas pour vos auditeurs, c'est la fable des abeilles de Mandeville, un économiste du XVIIe siècle qui explique que quand l'abeille butine la fleur, elle
ouais.
permet tout à la fois de faire du miel et de reproduire les fleurs. Je dirais qu'on est plus dans une relation, aujourd'hui en tout cas,
ouais.
entre la Chine et l'Afrique qui est de ce type-là, ce que les Chinois appellent le jeu gagnant-gagnant. Les Africains veulent développer leur continent, veulent développer les infrastructures. Il y a une seule puissance aujourd'hui dans le monde qui s'intéresse véritablement à ce projet, c'est la Chine, et elle a du savoir-faire et elle a de l'argent. Donc l'un dans l'autre, vous voyez, on a, je pense, une complémentarité
oui.
entre les projets.
Mais dans le même temps, selon plusieurs économistes, la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique est inégale. Il y a un déficit commercial africain dans ces échanges avec la Chine. Alors pourquoi les pays africains exportent peu vers la Chine ?
Alors, c'est vrai, c'est faux. En réalité, la Chine était déficitaire
oui.
avec le continent africain pendant plus de 15 ans, lorsque, en particulier, les matières premières étaient à des niveaux de prix sans précédent.
D'accord.
Et donc, au contraire, la volonté des Chinois était de rééquilibrer, c'est-à-dire d'exporter vers le continent africain. Puis, il y a eu la crise de 2008, les prix des matières premières se sont effondrés, et là, la balance commerciale s'est inversée en faveur, effectivement, de la Chine.
D'accord.
Maintenant, ce qui est en train de se passer, quand vous regardez les chiffres du commerce cette année entre l'Afrique et la Chine, vous voyez que c'est en train de se rééquilibrer car les cours des matières premières ont tendance à remonter. D'accord. Et le fait que la Chine, justement, construise des ports, des voies de chemin de fer, etc., pour exporter ses ressources naturelles, a pour conséquence que cette balance devrait s'équilibrer. Le problème est donc moins celui de la balance commerciale que celui de l'échange inégal en termes de produits.
Ce que
l'Afrique exporte, ce sont des produits miniers pour l'essentiel, du pétrole, etc. Et de l'autre côté, ce que la Chine exporte vers l'Afrique, ce sont des produits manufacturés. Attention aussi à une chose, la moitié des produits made in China sont en réalité importés par des Africains qui sont eux-mêmes présents en Chine, et je les vois à chaque fois que je vais en Chine, ce qu'on appelle les Africagora, notamment dans le Guangdong, qui est la grande région exportatrice, mais aussi maintenant à Shanghai. Ce sont des Africains qui achètent des produits chinois parce qu'ils sont demandés fortement aujourd'hui par les Africains. Ils les exportent par conteneur, soit vers le Moyen-Orient, soit vers des grands ports, justement de type Dakar.
D'accord.
Et à partir de là, ils sont mis dans des conteneurs, transportés par camion vers les marchés qui sont très, très demandeurs du produit made in China.
D'accord.
Ce ne sont pas seulement des produits chinois, ce sont aussi des produits qui sont fabriqués en Chine sous licence.
Restez avec nous, Jean-Joseph Boileau. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Nous allons prendre des auditeurs qui souhaitent réagir au thème du jour. Nous avons en ligne Koulou. Koulou, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Africa numéro 1.
Bonjour.
J'ai le sentiment que l'économiste en question qui vient de nous exposer effectivement sa stratégie.
Oui.
Des rapports entre l'Afrique et la Chine.
Oui.
N'est pas favorable à l'Afrique au stade actuel.
D'accord, c'est-à-dire, expliquez.
Contrairement à ce qu'il dit. Parce qu'il a bien dit que l'Afrique exporte ses matières premières et n'a rien d'autre d'ailleurs à exporter pour le moment.
Oui.
Et que, en contrepartie, reçoit sur une demande expresse des Africains des produits manufacturés venant de Chine.
D'accord, oui.
Bon,
oui, c'est ça.
Ce type de rapport, on le sait très bien sur le plan économique, c'est ce que Agiri Emmanuel peut appeler l'échange inégal.
D'accord.
Dans le cadre d'un développement inégal entre des pays, effectivement différentiel, sur le plan économique.
D'accord.
Donc.
Ce que vous dites, que sur le plan économique, la relation est inégale, c'est ça, entre la Chine et les pays africains.
Absolument, la relation est totalement inégale parce que ce n'est pas des produits de même valeur ajoutée qui s'échangent. C'est des produits, effectivement, de valeur tout à fait inégale, matière première contre produits manufacturés.
D'accord.
Où la chaîne des valeurs ne sont pas la même. Donc, il faudrait plutôt que les responsables africains prennent conscience, si je dis les responsables africains, c'est les bourgeoisies africaines qui tiennent effectivement le pouvoir, la démocratie électoraliste que nous avons en Afrique.
D'accord,
bon, c'est une autre paire de manches, peut-être que vous serez vraiment amené à un débat sur ce qu'est la démocratie chez nous.
D'accord, oui, bon, mais ça c'est un autre débat, vous poursuivez donc les dirigeants africains.
La couverture, l'ensemble des infrastructures dont il a parlé n'ont pas cours en Afrique de l'Ouest, ni au Sénégal, ni au Mali, ni en Côte d'Ivoire, parce que c'est là, l'Afrique de l'Ouest, on sait que la primauté des infrastructures de transport, c'est Bouloré.
D'accord.
Ce n'est pas du tout la Chine. Les Africains devraient plutôt tisser de nouveaux rapports. Demander à la Chine à ce que la nature de nos rapports soit des rapports nouveaux.
D'accord.
Nouveaux par rapport, dans la mesure où nous avons besoin plutôt de fabriquer ces produits manufacturés chez nous, c'est-à-dire
D'accord.
de créer les industries qui nous permettent d'avoir ces produits de consommation et non plus de les importer, parce
D'accord.
que jamais un pays ne s'est développé dans le cadre tout simplement de la consommation de produits manufacturés d'autres États.
D'accord,
très
bien.
Voilà, donc je pense que les Africains devraient plutôt orienter les rapports. Pour le moment, c'est pas du tout
d'accord,
des rapports gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Koulou. Nous allons donc faire réagir Jean-Joseph Boileau sur vos propos d'ici quelques secondes. Nous avons en ligne Abdelwassi. Abdelwassi, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je voulais demander à votre économiste, est-ce que l'Afrique optimise ou bien bénéficie vraiment de la concurrence du fait qu'il y a beaucoup plus de demandeurs de ces matières premières? Nous savons que avant la France a commencé par ralentir ses investissements parce que elle opposait la bonne gouvernance aux dirigeants africains.
D'accord.
Notamment à la Chine qui ne veut pas savoir de quoi il s'agit en ce qui concerne la gestion des dictateurs. Est-ce que la Chine n'intervient pas seulement pour protéger les dictateurs là au détriment de l'Afrique? Je sais que c'est vrai que la Chine fait quelques infrastructures, macro-infrastructures, contrairement à la France, qui ne finançait que des infrastructures sur la route de son approvisionnement seulement.
D'accord.
Merci à cette question. Merci.
Merci Abdelwassi, Jean-Joseph Boileau, merci de rester avec nous. Vous avez entendu donc les deux premiers auditeurs. Alors, comment réagissez-vous tout d'abord à la question d'Abdelwassi?
Avec le premier auditeur, on est tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le commerce n'était pas inégal au sens de la balance commerciale, mais qu'il était inégal au sens de la nature des produits qui sont exportés vers la Chine et qui notamment ne contiennent pas de facteurs main-d'œuvre. Or, c'est bien cela le défi numéro un de l'Afrique, c'est de créer des emplois. Et que d'autre part, la Chine, effectivement, on importait plus exactement de Chine des produits manufacturés. Alors, j'aimerais être clair là-dessus. Premièrement, pour sillonner très régulièrement l'ensemble des pays africains, notamment l'Éthiopie et le Kenya, il faut faire attention, il n'est pas du tout certain que la Chine ne commence pas très sérieusement à investir dans des chaînes de valeur en Afrique pour une raison simple. C'est que la Chine est hyper polluée, que les coûts de main-d'œuvre sont très élevés et que d'autre part, il vaut mieux, quand on a un marché aussi vaste que le marché africain, produire désormais en Afrique pour ce marché-là. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, loin d'être suffisant, pourquoi ? C'est le deuxième sujet qu'il a posé également et c'est très juste.
Oui.
Est-ce qu'il y a une volonté d'industrialisation ? Est-ce qu'il y a des politiques d'industrialisation mises en œuvre aujourd'hui par les dirigeants africains ?
D'accord.
Non, on voit un exemple tout bête. Tout un ensemble de matières premières aujourd'hui exportées vers la Chine, comme les minerais ou le pétrole plus exactement, gagneraient très très largement à être transformés sur place et à être exportés ensuite sous une forme déjà transformée. Alors, le problème, c'est pas tellement les Chinois qui là-dessus seraient plutôt favorables parce qu'il vaut mieux exporter de la pollution, vous comprenez, que d'importer de la pollution. C'est simplement que les dirigeants africains, votre auditeur a tout à fait raison, n'ont pas aujourd'hui très clairement posé sur la table les conditions de l'industrialisation, c'est-à-dire de la transformation sur place de toutes ces matières premières, y compris agricoles d'ailleurs. La Chine importe de plus en plus des produits agricoles bruts alors qu'ils devraient être transformés en Afrique. Sur le deuxième intervention, j'aimerais dire que la Chine a secoué le cocotier, et pas tellement parce qu'elle le voulait, mais l'Afrique néocolonisée des années 70, où il y avait finalement très peu d'intervenants extérieurs, et en particulier sur la partie ouest, on sait très bien, c'est le cas de la France qui avait complètement mis sous tutelle l'ensemble des secteurs, vous savez que les affaires Areva, Total, etc.
Exactement.
Lorsque la Chine arrive dans les années 90, parce qu'elle a besoin à toute vitesse de trouver des filières de matières premières sécurisées, parce qu'elle se développe à plus de 10% par an, et donc elle a besoin de sécuriser ces matières premières. Elle va donner un coup de pied dans la fourmilière néocoloniale africaine, et sans le vouloir, elle va tout d'un coup, en exportant ses produits Made in China, ou plus exactement, je répète, l'Afrique en important des produits Made in China, rappelez-vous les téléphones mobiles,
sans
la Chine, jamais l'Afrique aujourd'hui aurait plus de 600 millions d'abonnés aux téléphones mobiles.
Ces appareils,
mais aussi les équipements Huawei, etc., en concurrence avec Alcatel, le français par exemple, qui lui avait développé la téléphonie fixe. Donc elle a tout d'un coup donné un appétit de croissance aux jeunes Africains, qui se traduit par une mise en mouvement du continent, et bien sûr, là, il ne faut pas demander à la Chine de faire le bonheur de l'Afrique, mais ce sont des conditions indispensables pour le décollage de l'Afrique, et si l'Afrique aujourd'hui se développe rapidement, même s'il y a beaucoup de choses évidemment à redire, mais si elle se développe rapidement, c'est parce que la Chine est devenue le partenaire, l'investisseur numéro un du continent, mais qu'elle n'est pas toute seule. Elle est obligée de bien faire parce qu'elle est en concurrence les champs pétrolifères, pour les minerais, etc. Il y a en permanence une concurrence entre les grands groupes mondiaux et la Chine. Donc, elle est obligée aussi de faire attention.
D'accord, mais est-ce que ce développement de la présence chinoise en Afrique se fait au détriment de la France et de l'Europe, par exemple ?
Ben, disons que les boîtes françaises, pour les connaître un peu, en France, ne cessent aujourd'hui de pester contre l'impérialisme chinois, les Chinois qui cassent les prix, etc. Oui, mais simplement...
Oui.
Simplement, au bout de 2 ans, les boîtes françaises ont commencé à se dire « Ah oui, mais peut-être qu'on travaillait pas très bien. » Et ce que j'observe, c'est une véritable transformation de l'état d'esprit des entreprises françaises sur l'Afrique en reconnaissant qu'il faut qu'elles améliorent très nettement leur façon de travailler, qu'elles baissent leurs prix. Rappelez-vous les contrats de gré à gré entre les dirigeants africains et les grandes boîtes comme Bouygues, etc. C'était inadmissible, bien évidemment.
Ouais.
Et ça, la Chine a contribué, pas parce qu'elle le voulait, mais indirectement, elle a contribué à changer la donne. Donc, on a maintenant des entreprises allemandes, des entreprises anglaises, etc., qui sont sur le territoire africain parce que tout le monde a compris que c'est le continent qui décolle aujourd'hui. Et donc, c'est à mon avis, en termes d'offres et de demandes, je suis un économiste stupide, mais vous avez non plus un monopole qui intervenait sur l'Afrique, mais vous avez plusieurs, une concurrence entre plusieurs pays qui interviennent sur l'Afrique. Et je pense que c'est une possibilité, hein, c'est une possibilité évidemment pour l'Afrique de tirer le meilleur parti. Un bon exemple, c'est le chemin de fer. Lorsque je suis allé à Niamey, j'ai vu la voie de chemin de fer construite par Bolloré. Mais attendez, c'est ridicule ce que Bolloré a fait. C'est une voie de chemin de fer étroite, elle n'a aucune capacité évidemment à transporter à la fois des marchandises et des passagers.
Oui.
Quand vous regardez ce que les Chinois ont fait en Éthiopie sur la ligne de chemin de fer qui va vers Djibouti, vous avez, c'est le jour et la nuit. Donc si Bolloré veut survivre demain en Afrique, il faut qu'il améliore très très nettement son offre.
Restez avec nous, hein, Jean-Joseph Boileau, on vous retrouve d'ici quelques minutes. Nous avons d'autres auditeurs, nous avons en ligne Ousmane. Ousmane, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité. J'avais voulu dire à votre invité que dans les relations Afrique-Chine, je prends par exemple le cas du Sénégal, je crois que c'est plutôt les Chinois qui sont gagnants parce qu'ils exportent au Sénégal les habits, les chaussures.
Oui.
Certes, c'est moins cher, mais la qualité reste à désirer. Pour preuve que nos cordonniers, ces temps-ci, c'est la première fois qu'on a vu au Sénégal des cordonniers manifester parce qu'ils sont en train de perdre des clients. Puis en plus de cela, j'ai vu un jour aussi à la télé, ça se passait au Kenya. Au Kenya
très rapidement, Ousmane, il nous reste très peu de temps. Je vais vous demander d'abréger.
Oui. Je veux dire que... Les Chinois sont la cause de la déforestation.
D'accord, selon vous, oui. La cause de la déforestation.
Oui, on a vu en Casamance, tout ça.
D'accord.
La frontière sénégalo-gambienne.
Très bien.
Puis
très bien.
On a vu la disparition des bourricots. Maintenant, il y a plus de bourricots au Kenya, quoi.
Merci beaucoup, Ousmane. Nous avons en ligne Blaise. Blaise, bonjour. Allô, Blaise.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à GDA.
Oui. Très rapidement, Blaise. Allez-y.
Moi, j'ai raison, Ousmane, ce qu'il vient de dire, l'auditeur qui vient de terminer, là.
Oui.
Les Chinois sont en train de déboiser partout au Congo.
Oui.
Ils ont Kabila les a filés, je ne sais pas, 700 hectares, ils sont en train de déboiser. Et quand je prends la relation...
Ce que vous voulez dire, c'est que les Chinois s'installent et ne respectent pas l'environnement. C'est ça, en gros, ce que vous dites.
Ils ne respectent pas l'environnement et ils nous emportent qu'il y ait des produits de mauvaise qualité.
D'accord.
Au Congo, mais j'ai vu des produits chinois, j'ai été sidéré.
D'accord. Mais
ça, c'est foutre des Africains. Ça en foutre des Congolais, ça en foutre des Africains, parce que des produits de basse qualité...
C'est-à-dire, quelle sorte de produits? Soyez plus précis.
Tout ce qui est produit manufacturé, mais vraiment dans tout, hein, que ce soit les habits, que ce soit dans tout, quoi. Moi,
d'accord.
Dans tout, mais bon... Ils sont en train d'exploiter, ils passent par Kagame. Kagame, il sait que Kagame ne produit pas le coltan, ne produit pas le cobalt. Mais les Chinois, c'est les grands gagnants en Afrique aujourd'hui.
Très bien.
Ils gagnent beaucoup en Afrique, au Congo.
Merci beaucoup Blaise pour votre intervention. Nous retrouvons notre invité Jean-Joseph Boileau. Alors Jean-Joseph Boileau, sur cette question du respect de l'environnement, c'est vrai qu'on critique souvent les entreprises chinoises de ne pas respecter l'environnement, et aussi sur la qualité de certains produits. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?
Oh, c'est assez facile.
Ouais.
D'une part, sur le caractère le prédateur de la Chine. Oui, bien sûr. au même titre que toutes les entreprises multinationales restent aujourd'hui dans une position de prédation et simplement parce que c'est les Chinois que c'est plus gros, ça se voit plus. Mais je prends l'exemple de l'entreprise qui fait de l'huile de palme aujourd'hui justement au Sénégal et je crois aussi en Côte d'Ivoire, Vilma. C'est une horreur, c'est une horreur ce que font ces entreprises. Là, la question, elle est beaucoup plus dans les mains de la jeunesse africaine. Est-ce qu'elle va être capable, maintenant qu'il y a des démocraties partout, de mettre le point sur la table? J'ai vu que lorsque Xi Jinping est allé au Sénégal, vous avez des manifestations contre la corruption liée à cette autoroute et le président n'a pas inauguré l'autoroute précisément. Il ne faut pas croire. Les Chinois ont peur des Africains. Je crois qu'il faut vraiment se mettre ça dans la tête, à la fois par racisme légendaire, mais aussi parce que ce n'est pas un petit pays, l'Afrique. C'est un continent de plus d'un milliard d'habitants et je peux vous assurer qu'à chaque fois que je suis en Chine, je vois qu'ils ont peur. D'autre part, sur
mais
la peur, tête,
mais de quoi exactement? De leur...
Parce que ça forme une masse, une puissance. Ils ont eu des chantiers attaqués. Lorsque j'étais en Éthiopie, je suis allé visiter des chantiers routiers dans les fins fonds du sud de l'Éthiopie. Les Chinois, qui sont très peu nombreux sur les chantiers, très très peu nombreux, contrairement à ce qu'on dit, c'est de moins en moins les travailleurs chinois qui travaillent sur les chantiers, sauf des chantiers très techniques. Mais sinon, ils ont des employés africains. Eh bien, la nuit, ils s'enferment dans leur casemate et ils ont peur.
Alors,
aux Africains bien comprendre cela, il faut retourner dans l'autre sens et imposer ces conditions autant faire que qu'on puisse le faire, et notamment ça passe par les dirigeants, la chasse à la corruption, Transparency International. Les Chinois n'ont pas accepté de signer ces accords internationaux sur les codes miniers, et bien il faut que la société civile, et je ne doute pas qu'elle le fera. Sur la qualité des produits, il faut faire attention à ça quand même. Parce que j'entends,
c'est vrai que c'est une critique qui revient souvent sur la qualité des produits, notamment sur les vêtements made in China.
Alors, non, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part les prix extrêmement bas qui cassent effectivement l'industrie textile locale. L'industrie textile africaine a été laminée par le made in China qui est à très bas prix et qui est très souvent d'ailleurs vendu en dessous du prix de revient parce qu'il est vendu par des entreprises d'État qui ont un problème d'emploi, et comme la Chine a aussi des problèmes d'emploi, eh bien, on fait de l'exportation à prix cassé. Ça, c'est un premier problème. C'est la question des prix. Là-dessus, il y a deux réponses. Premièrement, les pays africains doivent avoir une politique commerciale de la même façon que l'Europe, les États-Unis, etc. et interdire, tout simplement, l'OMC accepte cette condition, interdire les exportations à des prix qui sont en dessous du prix de revient. Deuxième aspect de la médaille, mais attention, l'Afrique elle-même, dans la filière du vêtement et de la chaussure, était restée extrêmement traditionnelle, artisanale, etc. Donc il y a aussi une impulsion qui vient de la Chine pour que les industries textiles...
Monsieur Boileau, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous pouviez juste conclure le mot de la fin concernant donc l'avenir de cette relation entre le continent et la Chine.
C'est une relation qui va continuer à bousculer l'Afrique et je pense que de ce point de vue-là, c'est très utile parce que la Chine est un pays développé qui a montré qu'on pouvait se développer, qu'il n'y avait pas de fatalité et simplement les cartes sont dans les mains des Africains pour imposer des échanges égaux.
Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau, c'est le mot de la fin. Merci d'être intervenu dans le journal des auditeurs. Merci aux auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.